Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on continue la série Life Guard avec Charlène. Charlène est coach depuis 2020. Elle a effectué plusieurs switches dans sa carrière et elle vient justement nous parler de son rapport à la cohérence, de la manière dont il faut qu'on apprenne justement à écouter notre instinct, notre corps pour pouvoir prendre des décisions qui soient aussi plus alignées avec nous-mêmes, nos besoins et nos envies profondes. J'espère que cet épisode te rassurera, t'inspirera pour pouvoir, pourquoi pas toi aussi, enfiler tes brassards et te lancer dans le grand bain. On se retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute! Bah du coup, Charlène, rebonjour. Merci beaucoup de venir sur ce podcast. Ça me fait super plaisir.
Bah, je t'en prie. Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, du coup, avant de commencer, je vais te poser une petite question que je me suis mise à poser à tout le monde parce que je suis super curieuse. J'aimerais bien savoir, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui quand tu deviendrais plus grande?
En fait, moi, j'avais pas vraiment de passion. Tu vois, j'étais pas cet enfant avec une passion, tu vois, j'étais pas du tout comme ça en fait. Mais une seule chose qui m'intéressait énormément, c'était de découvrir les choses. J'avais toujours envie de découvrir autre chose. Donc tu vois, j'ai grandi à la campagne et j'aimais bien partir un peu toute seule comme ça, explorer ce qui se passait un peu aux alentours. Donc ça, c'était l'élément, on va dire, de ma jeunesse en tout cas. Mais j'avais pas de passion réelle.
Ok, donc t'as jamais, enfin tu t'es jamais projetée dans un truc en particulier?
Non, pas du tout. Et en plus, tu vois, même aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui se projette comme ça en fait. Moi, je suis bien dans le moment, dans le moment présent, on va dire. Oui, bien sûr, j'ai des choses que j'ai envie de faire, tu vois, mais j'ai pas de plan à 5 ans, à 10 ans, tout ça. En fait, toutes ces choses-là, moi, ça me stresse. Tu vois, quand on me pose cette question, hein, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Mais déjà, j'ai du mal à te dire ce que je vais faire dans 2 mois. Donc, dans 5 ans, tu vois, je pense que c'est difficile. Après, tu peux te donner une trajectoire, mais te dire exactement ce que tu vas faire. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à faire ça.
Ah, c'est marrant. Je pense qu'on a tous un peu notre trajectoire temporelle au-delà de laquelle on se met à stresser. Moi, je suis aussi plus autour des 2 mois, voire 1 mois. Et j'ai des amis qui ont vraiment le plan à 5 ans. Et j'admire ça.
Ouais, tout à fait, ouais. Mais j'ai des amis qui sont comme ça et je trouve ça super. Mais moi, j'arrive pas du tout à faire ça. Et tu vois, j'ai déjà été dans des situations où ma vie était un peu calée, on va dire. Mm-hmm. Et en fait, ça m'angoisse, moi, de savoir ce qui va se passer. Enfin, tu vois, de te dire dans un an, je sais que je vais être là. Ou dans... C'est quelque chose qui m'angoisse, en fait. C'est l'inverse. Je suis beaucoup plus à l'aise dans l'inconnu, en fait.
D'accord.
Ça me motive, je trouve ça hyper excitant. Alors que d'avoir une ligne comme ça tracée, pour moi, c'est angoissant, personnellement.
Ok. Ah, c'est super intéressant. Je pense que c'est la première personne qui le formule comme ça. En parlant d'angoisse. Et d'ailleurs, toi, tu as fait pas mal de switch dans ton parcours. Quand on avait échangé, tu m'avais raconté que justement, tu avais changé de trajectoire assez régulièrement.
Oui.
Est-ce que tu peux en parler un peu plus?
Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai fait plusieurs switch et tu vas voir qu'ils sont pas vraiment linéaires. Et ils n'ont pas vraiment été anticipés non plus. Ils se sont plutôt faits de manière, disons que l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie parce que pour moi elle était la bonne sur le moment. Donc mon premier switch, il a eu lieu quand j'avais 21 ans. Donc j'ai terminé ma licence en marketing et publicité, donc que j'ai effectué en France, et donc j'avais un stage de fin d'année à faire, donc que j'ai fait dans une agence de relations publiques. Et à l'époque, j'ai réalisé que mon anglais était très très mauvais pour travailler dans la vie active. Et du coup, j'ai décidé de partir 6 mois à Londres pour améliorer mon anglais. Et donc, à la rentrée, je devais revenir en France pour débuter mon master. Finalement, j'ai adoré Londres. Je me suis sentie vraiment très, très, très bien à Londres. Et donc, j'ai décidé d'y rester et j'y suis restée pendant 10 ans, où j'ai finalement après fait mon master donc à Londres. Voilà, donc ça a été mon premier switch, et je dirais même aujourd'hui, je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise, tu vois, d'avoir fait ce changement, de partir comme ça un peu toute seule, vivre ma propre aventure, je dirais. Ça a été vraiment très formateur, et vraiment j'encourage tout le monde à faire ce genre d'aventure. Ensuite, donc à Londres, j'ai travaillé dans différents groupes internationaux, donc en marketing. Donc c'était génial. Hein, j'ai pu construire ma carrière. J'ai énormément appris. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents, et je trouvais ça hyper intéressant justement à Londres, parce que t'as vraiment cette ouverture qui t'est donnée, et on te met pas de bâton dans les roues quand tu veux changer de domaine. C'est très simple en fait. Justement, les personnes voient en toi justement des compétences qui eux ils vont pas forcément avoir dans leur industrie, et ils trouvent ça plutôt intéressant. Donc j'ai absolument adoré mes 10 ans passés à Londres, et ensuite j'ai déménagé à Paris, où j'ai continué donc à travailler dans le marketing. Et puis j'avais toujours cette envie d'apprendre plus, hein, qui m'a suivi jusqu'à maintenant, et donc d'augmenter mes compétences. Donc j'ai fait un switch là encore de carrière cette fois, puisque je me suis reconvertie dans un poste de commercial. Donc dans la même entreprise où je travaillais, mais cette fois-ci donc en côté commercial, où je vendais des solutions marketing du coup à des directeurs marketing. donc j'ai fait ce poste pendant 3 ans. Okay. Et c'est un poste qui a été où j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, parce que même si c'est des environnements qui sont énormément liés, donc le marketing et le commercial en général, c'est deux départements qui travaillent beaucoup ensemble, le mode de fonctionnement n'a absolument rien à voir. Et je m'attendais pas à un virage aussi important. Je dirais, j'avais probablement un peu sous-estimé les difficultés qui allaient être devant moi. Voilà, donc j'ai fait ce poste pendant 3 ans, et ensuite il y a eu le confinement.
Le fameux
confinement qui donc nous a donné beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'on était, à ce qu'on voulait, hein, je pense, pour beaucoup de personnes. Et pendant ce confinement, donc j'ai décidé d'entamer une formation dans le coaching et la PNL, donc la programmation neurolinguistique, de manière à travailler plutôt le côté humain, parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressée, et qui avait tout le temps été mis en lumière dans les différents tests que je pouvais faire parfois en entreprise sur quel type de personne êtes-vous, etc. Et j'avais aussi été coachée moi-même, et cette partie-là en fait avait vraiment été mise en lumière lors de mon coaching. Et donc je me suis dit qu'avec tout ce temps que j'avais, j'allais pouvoir explorer donc ce côté accompagnement de personnes. Donc j'ai commencé à faire ça, et au départ c'était quelque chose que je voulais faire en parallèle de mon activité salariale. Donc je pensais conserver mon poste et puis faire du coaching de temps en temps. Sauf que j'ai vraiment adoré ça, et j'ai vraiment vraiment commencé à prendre beaucoup de plaisir à faire ça, de voir les personnes se transformer, ouvrir leur champ des possibles, s'autoriser à faire autre chose, à voir leur situation sous un autre angle. Et du coup, eh bien, j'ai décidé d'en faire, en tout cas, de me donner la chance d'en faire mon activité. Donc, il y a quelques mois, j'ai posé un congé sabbatique dans l'entreprise dans laquelle je travaille, pour justement développer mon entreprise, donc qui s'appelle Rise and Be, pour justement avoir le temps de développer ce business, voilà, à temps complet. Et donc, en parallèle de ça, puisque je n'ai plus besoin d'être à Paris, puisque je vivais à Paris et que je n'ai plus besoin d'aller dans un bureau, j'ai rejoint la communauté des digital nomades. Voilà, donc je voyage régulièrement dans des pays différents. en fonction de mes envies. Et voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment un mode de vie qui me convient énormément. Et je pense que ça rejoint peut-être un petit peu ce que je te disais au départ, cette idée d'exploration, tu vois, de partir un peu toute seule, regarder ce qui se passe ailleurs, etc. Donc pour l'instant, c'est vraiment un mode de vie qui me correspond super bien.
J'ai plein de questions. Je vais commencer plus par une question de définition, parce que quand tu as dit que tu faisais de la PNL, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est exactement?
Alors la PNL, donc programmation neurolinguistique, donc c'est l'idée en fait de venir travailler sur la performance des personnes en fonction de structures que tu vas mettre en place avec eux. Donc par exemple en fonction de le vocabulaire que tu utilises toi-même lorsque tu parles de toi, lorsque les choses que tu peux te raconter par exemple dans ta tête, bah toutes ces choses-là, elles ont un impact très important sur la manière dont ton énergie va être, ton comportement, etc. Et donc c'est venir travailler sur toutes ces choses-là pour justement t'aider à mieux performer et atteindre tes objectifs. Donc on est vraiment sur l'idée d'atteinte d'objectifs avec la PNL.
Ah ok. J'avais une vision, pas proche de la CNV, mais qui était plus sur apprendre à connaître ses besoins et justement à atteindre plus une forme de zénitude, même si le terme est très très mal choisi. Performance.
Non, pas forcément. Après, en coaching, oui. Là, en coaching, tu vas vraiment apprendre à connaître tes besoins, à rentrer dans la connaissance de soi, etc. Donc, on va venir travailler sur tes talents, tes compétences, tes valeurs, ce qui t'intéresse, ce à quoi t'es bonne, moins bonne, etc. Donc, ça, c'est plutôt coaching. Mais, par exemple, si t'as un objectif à atteindre, on va vraiment travailler ton mental pour que tu puisses arriver justement à atteindre ton objectif. Et tout ce qu'on a, en fait, tu te rends compte quand tu es coach, hein, l'objectif, c'est pas du tout de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, tu vois, parce qu'on sait tous ce qu'on doit faire au fond de nous, mais c'est vraiment d'emmener la personne à s'autoriser que ces actions-là, elles sont possibles. Donc, c'est de voir les choses d'une différente manière.
Ok. Ah, super intéressant. Et du coup, je reviens à mes questions sur sur tous tes switches. Je me posais la question, justement, tu parles de s'autoriser à changer, de pouvoir justement un peu suivre son instinct. Et toi, tu as commencé assez jeune, justement, tu vois, quand tu avais 21 ans, à partir à Londres, tu y restais 10 ans. Qu'est-ce qui t'a donné un peu cette autorisation, toi, comment tu le voyais à l'époque? Parce que je pense que c'est assez rare de justement lâcher prise aussi jeune et aussi tôt.
En fait, pour moi, c'était ce que je devais faire. Je sentais, au fond de moi, en fait. Si tu veux, donc moi, j'ai grandi dans un village. En Normandie, donc c'est un tout petit endroit où il y a 200 personnes. Et je me suis jamais sentie à ma place, en fait. Et en fait, ne pas se sentir à sa place, parfois, c'est difficile de mettre des mots dessus, parce que c'est juste quelque chose que tu ressens. Tu vois, c'est quelque chose à l'intérieur que tu sens, mais tu peux pas vraiment te dire quel est vraiment le problème de cet endroit. Et donc, quand on m'a parlé de Londres, c'était avec une collègue justement avec qui j'étais dans cette agence de relations publiques qui m'a dit « Mais je te verrais trop bien vivre à Londres, c'est très international, tu vas rencontrer plein de personnes, ça, c'est quelque chose qui t'irait vraiment bien par rapport à ce que je vois de toi. » Et en fait, comme ça, en y pensant, je me suis dit « Mais oui, mais je vais essayer, pourquoi pas ?» Parce que de toute façon, t'as rien à perdre, tu vois. À l'époque, j'avais 21 ans, je vivais chez mes parents. Je veux dire, si je vais à Londres pendant un mois et que je déteste, tu vois, voilà, je reviens et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mon expérience londonienne, elle s'est arrêtée et voilà. Donc, je pense que c'est ça, tu vois, quand t'es super jeune et que t'as vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que t'as envie de faire, ben fais-le. Parce que t'as aucun risque. En fait, enfin, je veux dire, même si tu finis, tu vois, tes études et que tu prends 5 mois, 6 mois pour aller essayer quelque chose, ben c'est pas grave. Hein, tu vas travailler pendant 40 ans. Donc, si t'as pas travaillé pendant 6 mois, ce sera pas grave. Tu vois, c'est ça en fait, c'est de mettre en perspective les choses. Tu vois, comme moi là, je prends un congé sabbatique, c'est un an sur une carrière de 40 ans, mais c'est rien. C'est ramener à l'échelle, c'est donner l'opportunité de faire ce que tu as envie de faire et puis ben d'essayer. Après, je te dis pas d'essayer pendant 15 ans si c'est quelque chose qui ne marche pas, mais donne-toi au moins l'opportunité d'avoir essayé ce que tu as vraiment envie de faire.
Et toi, tes parents, justement, t'ont un peu éduqué dans ce moyen de te dire, bon, ok, j'essaye, j'y vais. Mmh. Ou pas du tout, comme tu disais, tu te sentais pas nécessairement à ta place quand t'étais plus jeune. Est-ce que c'était vraiment un environnement global ou,
Non, alors mes parents, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont pas du tout dans l'exploration, etc. C'est pas du tout, d'ailleurs, ils ont pas trop compris mes choix. Même encore aujourd'hui, hein, tu vois, quand je leur ai annoncé que j'allais être digital nomade, je pense qu'ils m'ont à peu près pour une folle. Mais non, ils ont, enfin, si tu veux, moi, je vis dans un environnement qui est plutôt assez, on va dire, traditionnel, hein, donc tous leurs amis, ils avaient leurs enfants qui allaient à l'école et qui prenaient leur premier travail, voilà, de manière un peu traditionnelle. Et donc moi, je leur ai dit, bah non, moi, je vais aller vivre à Londres et je vais aller travailler dans des bars pour améliorer mon anglais. Donc c'est voilà, donc c'était pas forcément facile pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas au départ, ils n'ont pas forcément compris. Et puis finalement, ils ont réalisé que bah voilà, que j'étais très heureuse comme ça. Et comme je te dis, tu vois, j'ai commencé à Londres, j'ai travaillé dans des bars et dans des coffee shops. Ça m'a pas empêchée de finir responsable marketing dans la City. Tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, tu peux faire des choses sur le moment, tu vois, tous tes amis qui ont déjà des postes dans des entreprises internationales. Toi, à côté de ça, tu travailles dans un coffee shop. Tu te dis, bon, il y a un peu un décalage. Mais finalement, tu vois, je pense que pour certains, ma carrière a été beaucoup plus riche. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait forcément de règles. Il faut vraiment suivre ce que tu as envie, parce que tu vois, c'est clair que quand je travaillais dans un coffee shop, j'apprenais pas, mon objectif c'était pas d'apprendre à faire des cafés, mais j'apprenais énormément parce que je rencontrais des personnes de cultures complètement différentes et surtout bah j'apprenais une autre langue, ce qui m'a énormément servi dans ma carrière après. Et qui a été un point vraiment hyper bénéfique pour moi.
Et comment t'as géré justement, tu vois, tu parles des différences de début de carrière entre ce que toi tu faisais et ce que tes amis faisaient en sortie d'études. Comment t'as un peu pris du recul par rapport à tout ça? Parce que je sais que pour beaucoup c'est difficile de se dire j'ai envie de changer, mais en même temps j'ai pas envie de me priver nécessairement par rapport à tout ce que bah, j'ai le droit d'avoir en sortie d'études. Et je dis le droit, mais avec un milliard de guillemets.
Ben, je pense que c'est une question de priorité, tu vois, de savoir où elles sont tes priorités. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui finissent l'université ou les grandes écoles, qui ont envie directement d'aller travailler dans une grande entreprise et de commencer à prendre des postes importants, etc. Et tant mieux, pourquoi pas. Je veux dire, si c'est ça que tu as envie de faire, fais-le. Mais si à un moment, tu te sens que finalement, bah, peut-être tu as oublié de faire autre chose entre-temps ou que tu as raté un peu une étape, eh ben, fais-le également. En fait, il n'y a pas forcément de règle où il faut commencer par ça, après il faut faire ça. Il faut faire ce que tu sens juste pour toi. Mais en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est de pas vouloir rentrer absolument dans les chemins conventionnels. Ça, c'est... en tout cas, pour moi, ça a été le conseil que je donne un peu à tout le monde. Parce que, comme je te disais, si tu prends un an pour aller visiter l'Australie, ben, c'est pas grave. C'est un an. Il te reste 39 ans à travailler. Donc, ce sera pas très grave. Et au contraire, je pense que pour les entreprises aujourd'hui, c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui ont des expériences différentes. Tu vois, moi, ça m'a jamais posé de problème, par exemple, d'avoir fait ça. Je me suis jamais sentie pénalisée à aucun moment où les gens m'ont dit non mais t'as pas suivi le chemin traditionnel donc on ne peut pas t'employer. Oui. Non. Après quand tu vas en entretien au contraire, moi j'étais hyper passionnée, j'adorais ce que j'avais fait, j'avais appris plein de choses. Et c'est ça que t'as envie de, et je pense que c'est ça aussi que les entreprises ont envie d'avoir. Et après, si elles ont pas envie de ça, bah, c'est que c'est pas une entreprise pour toi non plus. Tu vois, c'est ça aussi. Moi, j'ai pas envie de travailler pour une entreprise qui ne donne de la valeur qu'à des personnes qui ont suivi un chemin traditionnel, parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes valeurs. Donc, je ne serai pas heureuse là-bas non plus. Voilà.
Ah non, mais c'est un bon point de vue de se dire qu'effectivement, c'est pas forcément à toi de rentrer dans la case de l'entreprise, mais que c'est aussi à double sens. Et...
Ouais.
L'entretien, les premiers mois.
Et ça, on l'oublie souvent, et surtout au départ dans sa carrière, je pense, on pense que l'entreprise est placée au-dessus et toi, tu es en dessous, en fait. T'es la personne qui est demandeuse de travail. Mais en fait, non. Enfin, pour moi, c'est un équilibre, hein, parce que j'ai aussi besoin d'être heureuse dans cette entreprise. Et si on partage pas les mêmes valeurs et si cette entreprise ne comprend pas mon expérience et ce que j'ai fait, ben alors c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble en fait. Et c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres entreprises qui elles peut-être auront envie de m'embaucher. Donc pareil, pas de focus sur ça, sur se dire si une entreprise me veut pas, ça veut dire que je ne peux plus être employée dans une entreprise. Non, c'est une entreprise. Il y en a des milliers d'autres.
Après, je me dis que c'est peut-être, c'est vraiment une théorie qui m'est venue en t'écoutant, et que c'est peut-être aussi des questions générationnelles, au sens où nos parents étaient plus d'une génération, tu travaillais 40 ans dans la même entreprise, et donc les entreprises se sont construites comme ça, avec la révolution industrielle, etc. T'avais aussi ce moyen, mais avec l'explosion des startups aujourd'hui, t'as peut-être aussi plus de place pour des trajectoires.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, complètement. Et je pense que tu vois, même les entreprises, elles sont amenées à changer sans arrêt. Enfin, moi, je travaille dans un grand groupe et tous les ans, il y a des réorganisations. Tous les ans, il y a des licenciements parce que certains postes ne correspondent plus aux besoins de l'entreprise. Et en fait, une entreprise aussi, pour assurer sa vie, sa survie, elle a besoin de sans arrêt se renouveler, s'adapter au marché, etc. Et donc, nous aussi, en tant qu'employés, on a besoin de s'adapter également au marché, aux tendances. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est extrêmement important, je dirais.
Et comment justement en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que les entreprises le savent. Qu'elle se réorganise assez régulièrement, mais qu'il y a encore un peu ce mythe, tu vois, du CV cohérent et justement des parcours qui restent encore assez linéaires. Donc, toi, comment tu l'as vu depuis l'intérieur et comment en parler justement avec ces entreprises qui sont peut-être un peu en retard?
Ouais. Après, ça dépend du type d'entreprise sur lesquelles tu vas. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans des entreprises un peu internationales. Peut-être parfois plus ouvertes, je ne sais pas.
Ok. Ouais.
Après, c'est vrai que tu as des entreprises qui sont plus conservatrices et qui vont chercher des profils plus conservateurs. Mais là encore, tu vois… Si tu n'es pas quelqu'un de conservateur, est-ce que tu as vraiment envie de travailler dans une entreprise conservatrice? Je sais pas, c'est une question auquel chaque personne doit répondre et de se dire, est-ce que cette entreprise, elle est vraiment bien pour moi? En tout cas, c'est vrai qu'en France, il y a un petit peu de retard là-dessus par rapport à quand j'étais à Londres. Tu vois, le fait d'être française, d'avoir fait mes études en France, d'avoir fait d'autres choses, ça n'a jamais été un frein à quoi que ce soit pour que je puisse trouver un travail. En France, effectivement, à l'époque, en tout cas, c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, tu vois, je pense que beaucoup d'entreprises, elles ont besoin de laisser ce type de personnes arriver dans leur entreprise, parce que si elles ne font pas, elles vont peut-être pas aussi pouvoir recruter le type de personnes dont elles ont besoin. Donc, c'est aussi à elles de s'adapter. Et puis, et puis à toi aussi, parce que quand tu arrives dans un poste, c'est pas parce que tu as fait des choses qui étaient pas du tout en rapport avec l'industrie dans laquelle se trouve cette entreprise ou le poste pour lequel tu vas, de te dire que tu as appris plein de choses avant. C'est de transférer ce que tu as appris avant et de me dire, bah, moi, j'ai appris tout ça et c'est ça que j'ai envie de donner à l'entreprise. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de frein. C'est une manière aussi de le présenter, tu vois, de montrer ta motivation, en fait. Donc, je ne le vois pas comme un frein, personnellement. Okay. Et je pense que si l'entreprise le voit comme un frein, bah, c'est pas la bonne entreprise pour toi.
Oui, on revient au fait que c'est pas forcément un match de base et que c'est pas grave non plus.
Ouais.
Si jamais ça marche pas. Mais c'est vrai que je pense que c'est difficile de faire ce switch aussi de posture quand t'es au tout début de ta vie professionnelle, de dire ok, moi aussi j'offre quelque chose sur le marché du travail, je suis pas juste une énième personne qui vient proposer quelque chose et qui espère qu'on me donne un.
Travailler sur ta singularité, c'est hyper important. Mais à ton âge, comme au mien d'ailleurs, hein, tu vois, moi, si je vais à un entretien pour un poste, il y a une dizaine de personnes qui vont aller sur le même poste. Donc, c'est aussi à moi de montrer comment est-ce que je peux faire la différence. Ouais. Et parfois, d'avoir eu un parcours différent peut faire la différence. Tu vois, parce que justement, mais la différence du bon côté. Tu vois, de se dire « Ah ouais, mais elle a quelque chose de différent des autres et j'ai bien aimé sa manière de me présenter les choses, de me présenter ce qu'elle peut m'apporter. » Voilà, c'est vraiment, je pense, de se différencier. Parce qu'on sort tous avec, tu vois, quand on quitte l'université, on a tous le même diplôme. Donc, on a tous la même chose, on a tous appris la même chose. Donc, c'est vraiment comment est-ce que… Pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi par rapport à une des personnes qui était avec toi à l'université? Bah, c'est toi, en fait. C'est pour toi qu'ils vont te choisir. Donc, vraiment d'insister là-dessus et de montrer ta personnalité, parce qu'il n'y a que ça vraiment qui peut te différencier par rapport à quelqu'un d'autre.
Et du coup, j'avais une question aussi par rapport, tu vois, à toutes ces questions de définition de sa singularité, de soi. On avait parlé la première fois qu'on s'était appelé, tu sais, de justement toutes ces questions de gap year, d'années de césure et de un peu des vertus de la pause.
Ouais.
Est-ce que tu penses que ça passe forcément, bah, soit par cette prise de recul physique, ou comme avec le Covid? D'un retour sur soi un peu forcé où t'es un peu dans ta bulle, ou est-ce qu'il y a d'autres façons peut-être aussi de travailler sur ses valeurs, sur soi, sa définition de sa singularité, de ses envies futures?
Après, je pense que tu peux travailler sur tes valeurs, ta singularité partout et tout le temps. T'as pas forcément besoin d'aller à 1000 km ou 10 000 km pour connaître tes valeurs. Tu peux bien sûr y réfléchir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être allées à 10 000 km et qui n'ont pas du tout réfléchi à leurs valeurs.
Oui, c'est vrai.
Donc, je pense que ça va un peu dans les deux sens. Après, oui, moi, forcément, j'ai quitté la France pour aller vivre ailleurs. Donc, oui, ça m'a énormément appris parce que je me suis retrouvée toute seule, parce que j'étais dans un pays où je parlais pas la langue, où je maîtrisais pas la culture. J'avais tout à construire dans cet endroit. Et forcément, c'est très formateur parce que tu te retrouves face à des difficultés auxquelles tu vas pas faire face si t'es en France, par exemple. Tu vois, si j'avais été en France, je peux vivre chez mes parents. Tu vois, je parle la langue, je connais la culture, j'ai mes amis, etc. Donc, le fait de te retrouver comme ça un peu perdu au départ dans l'espace, c'est très formateur. Mais comme là, tu vois, le mode de vie que j'ai choisi, je change à peu près tous les mois d'endroit. Tous les mois, tu rencontres de nouvelles personnes, etc. Donc, tu dois t'habituer à un autre environnement. C'est une autre atmosphère. C'est pas la même ambiance dans tous les co-living. Et voilà, c'est de l'adaptation. Et je pense que l'adaptation, c'est vraiment essentiel. En fait, je pense que c'est une des compétences les plus importantes. C'est la plus importante.
Et ça passe forcément, du coup, enfin, cet apprentissage passe forcément par des environnements ou des switches.
En tout cas, le fait de te dire que tu peux t'adapter. Donc, si tu t'entraînes de plus en plus à te mettre dans des situations où tu dois t'adapter, forcément, pour toi, l'adaptation devient de plus en plus simple, en fait, puisque tu es habitué à faire ça. Si tu es moins habitué, et on le voit, tu vois, moi, le coaching que je donne est en général pour les personnes entre 30 et 40 ans, mais il m'arrive aussi de recevoir des personnes qui sont un peu plus âgées. Et tu vois, qui ont été, par exemple, licenciés parce que leur poste n'existe plus aujourd'hui au sein de l'entreprise. Et c'est des personnes qui ont fait le même poste pendant 20, 25 ans déjà. Et en fait, de se dire qu'ils n'ont pas du tout été donc habitués à ce mode d'adaptation et de se dire, je dois changer d'entreprise, je dois refaire mon CV, je vais aller travailler dans une autre entreprise. Pour elles, elles sont complètement déstabilisées, en fait, par ce qui vient de leur arriver. Alors que pour une personne qui a eu l'habitude continuellement de changer, si tu veux, quand l'entreprise te dit « bon, j'ai plus besoin de vos services oui. », bon, ça fait un petit peu mal à ton ego parce que tu prends quand même un petit peu de manière personnelle, mais tu es capable de rebondir et de t'adapter assez facilement parce que tu as cherché du travail plein de fois, tu as travaillé dans plein d'entreprises, tu as fait ton CV 1000 fois. Donc voilà, tu as fait plein d'entretiens, donc tu connais déjà ce process. Oui. Mais tu vois, quand tu n'as pas l'habitude de changer, ben c'est forcément plus difficile lorsque tu as un changement qui est forcé et que tu n'as pas le choix. En fait, il est là et tu es obligé de t'adapter.
Non, mais c'est fou, tu vois, tu t'as dit 25 ans. Et vraiment, dans mon esprit, ça m'a semblé être une vie à mon échelle. C'est un peu comme une vie. Mais ça me semble impossible à l'heure où on parle que des personnes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail puissent passer 25 ans dans une entreprise.
Maintenant, oui, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Mais pas des personnes qui ont aujourd'hui 50 ans, c'est possible. Effectivement. C'est possible. Surtout dans des grands groupes, tu vois, parce que dans des grands groupes aussi, parfois tu vas travailler 3 ans dans un poste, après on va te proposer autre chose pendant 3 ans, on va te proposer autre chose, et en fait ça passe très vite. Tu vois, moi dans cette entreprise où j'ai été 7 ans, et d'habitude je vais jamais rester, je suis toujours restée en général 1 an, 2 ans, 3 ans dans une entreprise maximum. Et en fait, là, le fait que ce soit un grand groupe et qu'il y ait différentes opportunités qui s'offrent à moi, du coup, voilà, je suis restée 7 ans et c'est passé très, très vite.
Ah oui. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça parce que moi, je suis plus habituée au milieu startup. Et donc, tout va très vite, mais tu peux aussi changer très rapidement d'entreprise. Je pense un peu comme si tu changeais d'unité dans un
tout à fait. Oui, exactement.
Et pour revenir un peu à ces questions justement de gap year, est-ce que tu penses que en France, c'est ce que tu disais au début, on a un rapport à la pause qui est assez particulier par rapport à d'autres cultures. Ouais. Je pense, moi j'avais fait un échange en Finlande où ils étaient beaucoup à faire ça en fin d'études. Je sais qu'en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons aussi beaucoup. Est-ce que, à ton avis, c'est un truc, non pas qui devrait être institutionnalisé, mais peut-être un peu plus mis en valeur? Parce que j'ai l'impression que toi, ça t'a beaucoup apporté. Et quand on est jeune, on n'a pas forcément de capacité de prise de recul. Moi, je vois autour de moi, on choisit beaucoup des voies parce que nos parents nous ont dit que c'était cool, que nos amis font ça, etc. Et j'ai l'impression que, tu vois, de ce que tu me dis, que ces 6 mois t'ont déjà permis de dire « ok ». On chill, mais toi, t'as eu cette envie, mais si on n'a pas forcément, je me demande si c'est pas un truc.
Après, je pense qu'il faut pas que ce soit quelque chose de forcé, tu vois, parce que les personnes à qui ça ne va pas du tout correspondre, tu vois, de faire ça. Donc, je pense qu'il faut pas le forcer, mais c'est bien d'en donner l'opportunité. Et tu vois, c'est un peu comme le congé sabbatique, en fait. C'est quelque chose qui est possible, mais t'as plein de gens qui ne vont jamais prendre cette opportunité. Parce que, il faut faire un an de pause dans sa carrière. Tu n'as pas de revenus pendant le moment où tu es en congé sabbatique. Donc, il faut aussi gérer cette période-là. Et du coup, une fois que tu es dans cette vie active et que tu as pris l'habitude de gagner un salaire qui va augmenter hein, au fur et à mesure des années, c'est beaucoup plus difficile de sortir de ça et de te dire « Non, attends, je vais aller faire autre chose pendant un an et après, je vais voir ce que je vais faire. » Donc moi, je pense pas qu'il faut le forcer, mais je pense qu'il faudrait en donner l'opportunité. Tu vois, sans être pénalisé en fait, de dire j'ai l'opportunité de faire ça et c'est un choix. Je vais pas être pénalisé lorsque je vais vouloir revenir, par exemple, peut-être continuer mes études. On va pas me dire oui, mais attendez, parce que là vous êtes sorti du cadre universitaire et du coup vous pouvez plus rentrer. Voilà, ça, je pense qu'il faudrait effectivement assouplir cette partie-là et te dire c'est tout à fait possible de prendre un an et d'aller faire autre chose pendant un an et finalement, soit te dire je continue, je reviens et je reprends ce que j'ai laissé ou te dire tu vois, comme moi j'ai fait mon master à Londres et finalement ça change rien, tu vois, enfin c'est voilà, que tu fasses un master en France ou un master à Londres ou aux États-Unis d'ailleurs, n'importe, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut, pas le forcer, mais il faudrait en donner l'opportunité.
Ouais, mais en fait, en t'écoutant, je me dis que finalement, le Covid, c'est peut-être un peu une forme de, j'allais dire, une forme d'année de césure que beaucoup ont été forcés de prendre. Parce que j'ai l'impression que ça a quand même, que beaucoup de personnes se sont retrouvées à réfléchir sur le sens de leur vie, se dire, que ce soit à 20, 30 ou 40 ans, qu'il y a quand même encore beaucoup de temps devant nous, et à réfléchir un peu à l'impact qu'il voudrait avoir. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a eu une petite vague de démissions, reconversions après cette période. Je sais pas comment ça s'est passé, j'allais dire, pour ta génération, mais en tout cas, je sais que, de mon côté, ça a bien secoué.
je pense que c'est pareil pour ma génération. Hein, ça a énormément secouer les gens. D'ailleurs, moi, j'en fais partie. Hein, je fais partie de ces gens-là. Je pense qu'on était tous un peu. Tu vois, moi, si je parle pour moi, j'étais un peu dans ce que j'aime bien dire, mais dans cette roue un peu du hamster. Tu sais, qui court sans arrêt. Tu es dans cette roue infernale et tu sais pas vraiment où tu vas en fait. Mais tu continues parce que tout le monde fait ça et t'es pris dans cet engrenage un peu. Donc tu continues de faire ça. Et effectivement, le fait d'être forcé à rester chez nous, à être coupé un peu du monde, ça nous a donné énormément de temps de réflexion, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se sont dit « Mais en fait, ce que je fais, ça me va pas. » Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai envie d'essayer autre chose, etc. Donc, et tant mieux, je dirais. Tu vois, et pour certaines personnes, ça va peut-être être le cas de se dire, j'avais besoin de prendre un an, tu vois, de prendre du recul par rapport à ma situation, et puis après de revenir et d'être mieux en fait, de dire, maintenant j'ai reposé les bases. Et du coup, je me sens mieux pour continuer. Donc, je pense que pour moi, je le qualifie d'une opportunité. Je sais que certaines personnes l'ont vécu d'une manière pas forcément simple ou facile. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, j'ai absolument adoré cette période qui m'a fait énormément de bien. Donc, j'espère que c'est le cas pour beaucoup de personnes et qu'en tout cas, ça a permis de reprendre un peu le contrôle de sa vie, je dirais.
Et du coup, avant, dernière question, parce que par rapport à ce que tu dis, tu vois, sur ta roue de hamster, c'est étonnant, mais au travers de notre échange, tu as beaucoup parlé de s'écouter, du fait que tu ne te projetais pas. Et donc, ça m'étonne de ta part, tu vois, que tu dises que toi ici, tu étais un peu dans cette roue de hamster. Et donc, comment on peut se reconnecter à son instinct quand on se retrouve dans ce train-train de l'enfer?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a se reconnecter à son instinct. Alors, je pense que moi, je savais que j'étais pas vraiment au bon endroit. Mais après, il y a se dire où est ce bon endroit. Donc, où est ce bon endroit? Donc, tu le sais pas forcément. C'est pas, comme je t'ai dit, moi, j'avais pas forcément, j'ai jamais vraiment eu de passion ou de choses comme ça, tu vois. Donc, quand tu, moi, ça fait 15 ans quand même que je travaillais en entreprise. Et, je savais pas vraiment où était cet endroit, en fait. Et même si tu connais cet endroit, de te dire, je vais lâcher tout ce que j'ai et je vais aller dans cet endroit, ça, c'est encore une autre étape. Oui. Aujourd'hui, je pense que t'as plein de gens qui se disent qu'ils sont pas au bon endroit, mais de passer à l'action pour aller dans autre chose, c'est l'étape la plus difficile. Ça peut sembler simple, en fait, tu vois, comme ça, on te dit, t'aimes pas ce que t'as, change-le et puis va faire autre chose. D'ailleurs, ça a souvent été, tu vois, ce que je disais à tous mes amis, c'était si tu n'aimes pas ce que tu fais, change-le. Oui, bien sûr, le changer. Sauf que effectivement, quand tu es plus âgé, y a pas forcément peut-être que toi. Hein, t'as peut-être des enfants, tu vis peut-être avec quelqu'un. Et ces gens-là, eux, ils n'ont pas forcément prévu le fait que toi, tu voulais complètement bouleverser ta vie. Donc voilà. Donc il y a d'autres choses à prendre en compte. Et ça se fait pas comme ça, un changement. Hein, ça se fait pas. Et surtout, enfin, moi, je dis souvent de ne pas le faire sur un coup de tête, surtout quand t'es plus âgé. Quand même, c'est quelque chose auquel il faut un peu calculer ton risque, je dirais. Parce que forcément, qui dit changement dit un peu risque, hein, c'est normal. Donc, accepter de prendre ce risque et surtout, assurer un peu ses arrières, même si on peut pas tout calculer et tout prévoir, mais savoir au moins que t'as un peu un filet de sécurité autour, tu vois. Et ce filet de sécurité, ça peut être, t'as peut-être un peu d'économie, t'as ton expérience aussi, hein, toi, ce que la personne que tu es devenue, la personne que t'as construite, c'est aussi ta sécurité. Voilà, donc et avoir un entourage aussi, des personnes qui sont là pour te soutenir, hein, dans ce changement que t'as envie de prendre.
Ouais, je pense plus à mes amis en fin d'études qui ont pris des directions mais qui n'ont rien à voir. Mmh. J'ai une pote qui fait de la poterie, une autre qui fait de la pâtisserie. Mmh. Et c'est vrai que quand tu termines tes études, donc qui plus est, en plus tu es en école de commerce, généralement tes économies tu les as données. Mmh. À l'école, je pense que vraiment c'est important d'avoir l'entourage.
Ouais, je pense que l'entourage c'est hyper important. Enfin, dans tout ce que tu vas, dans tout ce que tu vas, que tu décides d'entreprendre quelque chose ou que tu décides de partir à l'étranger, etc. C'est important d'avoir ton entourage qui te soutienne. Mais pour tes amis qui ont fait quelque chose de complètement différent par rapport à peut-être ce qu'elles étaient destinées à faire, on va dire. Moi, je pense que je pense que ça doit être des passions pour elles, hein, puisqu'elles vont aller faire quelque chose quand même de plus artisanal, on va dire. Et moi, je trouve ça formidable d'aller essayer de faire ça. Tu vois, et c'est ce que je te disais, c'est quand tu es super jeune, au pire, tu essayes ça et peut-être même que dans 3-4 ans, tu vas te dire, en fait, c'était super, j'ai fait ça, j'ai adoré le faire, mais là, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et ce sera pas grave parce qu'en fait, au-delà du fait d'avoir fait de la poterie, etc., elles ont créé un business. Et d'avoir créé un business, tu apprends énormément et tu apprends plus que tu ne pourras jamais apprendre dans une entreprise. Parce que tu as toutes les casquettes, parce que tu as la gestion du stress, parce que c'est toi qui gères tes propres finances, etc. Et c'est des compétences qui sont… tu pourras jamais toucher en entreprise. Donc c'est hyper formateur et moi je trouve ça super d'aller suivre sa passion. donc je les encourage vivement dans leur projet.
En l'occurrence, c'était un peu comme toi, tu vois, des personnes qui sentaient pas à leur place, soit dans leurs études, soit dans le dernier stage qu'elles ont fait. Et donc c'était Enfin, je dis qu'elle, mais il y a aussi des îles que ces personnes font. Donc, c'est plus à chaque fois un peu une nécessité, je pense aussi, de dire là, maintenant, c'est plus possible, il faut que je change. Ouais. Et je trouve ça super fort d'arriver à déjà à mettre des mots, comme tu disais, sur le fait que tu n'ailles pas bien. Parce que c'est ce qui te fait aussi bouger au fur et à mesure. Sinon, t'arrives pas à mettre le doigt dessus.
Tout à fait.
Et du coup, dernière question. Oui. Est-ce que tu aurais peut-être justement un outil à partager pour soit un peu se reconnecter à son instinct, vu qu'on en a beaucoup parlé, ou un outil que tu aimes bien partager à des personnes que tu coaches?
Oui. Donc moi, un outil que j'utilise souvent en coaching, c'est la visualisation. Ok. C'est un outil qui est hyper puissant. Parce que ça te permet vraiment de te voir en situation. Et surtout, ton cerveau, il va pas forcément faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc te visualiser, tu vois, sur, par exemple, ta journée idéale, c'est très, très puissant parce que ça te permet aussi de... Ça touche pas forcément que ton travail, mais ça peut aussi toucher l'environnement dans lequel va se faire ce travail. Tu vois, des choses, par exemple, sur où est-ce que tu vas te réveiller, par exemple. Est-ce que tu te vois plutôt dans une ville? Est-ce que tu te vois plutôt dans une campagne? Est-ce que tu te vois à la mer, à la montagne, etc. Ce que tu fais aussi pendant cette journée, tu vois, si tu me dis, je suis entourée de plein de gens, etc. Bon, par exemple, être entrepreneur, c'est peut-être pas forcément pour toi, parce qu'entrepreneur, c'est quand même très, on est quand même très seul au départ, même si on s'entoure de d'autres entrepreneurs, on n'a pas ce travail d'équipe, en tout cas au départ, jusqu'à que tu crées vraiment ta structure. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes, et en tout cas pour moi, ça me donne beaucoup de clés quand je suis en coaching, quand je demande à des personnes de faire cette visualisation, tu vois, et qui après vont me dire. On va travailler sur ce qu'elles aimeraient faire, trouver leur voie, etc., et qui me trouvent certains postes. Et je leur dis, mais comment est-ce que ça se lie avec cette visualisation de ta journée idéale que tu m'avais donnée? Donc, c'est intéressant, tu vois, pour moi, de faire ça. Et en fait, une fois que tu as fini cette visualisation, de noter un petit peu les grandes lignes de ce que tu as visualisé. Et après, te dire... est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour arriver justement à cette journée idéale que j'ai visualisée, ou lorsque je pense à faire quelque chose, est-ce que c'est en ligne avec ce que j'ai envie d'atteindre? Et c'est la même chose, hein, ta visualisation d'aujourd'hui, elle sera pas ta visualisation de dans 5 ans. Donc te visualise pas dans 5 ans, c'est pas l'objectif, c'est vraiment de te visualiser dans là ce que tu aimerais actuellement.
Ok, super intéressant. Merci, je l'ai noté. Je pense que je vais m'en aller faire cet exercice cet après-midi. écoute, merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment très chouette.
Merci à toi.
Et bien plaisir. À très vite.
Merci.
Et voilà. On arrive au bout de cet épisode, merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau !